Alors, on est dans un sujet populaire, un sujet qui, dans les manuels du pasteur, sont recommandés juste avant d'être voté comme pasteur, prêcher sur ce sujet, le rôle de la femme, pour mettre à l'épreuve si les gens vous fassent vraiment confiance. Alors, quelques-uns m'ont dit, Joël, t'es sûr que c'était une bonne idée de prêcher sur ce sujet-là, juste avant le vote à la réunion annuelle? Et j'y avais jamais pensé jusqu'à temps qu'on me pose la question, pour être bien honnête. Parce qu'on pense pas comme ça, puis on planifie pas comme ça. Mais ça fait partie de ces sujets des Saintes Écritures. Évidemment, ce n'est pas un sujet populaire. J'ai hâte qu'on ait fini ce sujet. Parce que je vous avoue que je passe du surtemps à lire. Et à me faire une tête pour vraiment bien présenter ce sujet, bien exposer ces versets qui sont galvaudés d'un bord puis de l'autre. Puis qui sont sujets, évidemment, de polémiques, de différents dans l'Église. Et pour plusieurs raisons, vous savez, que c'est polémique. Et une partie de la polémique vient aussi de notre propre vécu. Vous savez, même dans notre salle ici, on a une vaste expérience d'une variété d'églises. Vous êtes pas juste des gens qui sont de l'église baptiste, vous avez été à plusieurs autres églises et de différentes familles d'églises. Pour certains, vous savez, dans certaines églises, il y avait toutes sortes de règles sur les femmes et une femme n'avait pas le droit de même demander un à l'époque, parce qu'on choisissait des cantiques, elle avait même pas le droit de poser la main pour demander un cantique, il fallait qu'elle demande à son mari. Là, vous dites, ben voyons donc. Mais oui, il y en a qui viennent d'un milieu très, très conservateur au niveau du rôle de la femme et qu'elle pouvait même pas choisir le chant. Il fallait qu'elle demande à son mari la permission ou qu'elle lui demande dans l'oreille discrètement sans que les autres femmes regardent pour y suggérer à son mari gentiment, non par force, de choisir tel cantique qu'elle aime beaucoup. D'autres viennent d'églises où il y a des femmes qui sont prédicateurs ou même pasteurs de l'église, même si c'est très minoritaire. Et entre ces deux spectres-là, il y a une grande variété. Et même notre propre Église a beaucoup cheminé au sujet du rôle de la femme. Je me rappelle des discussions il y a 20 ans qu'on avait amorcé avec le pasteur Benoît sur le rôle de la femme, puis on voulait se repositionner, réfléchir à toutes ces questions-là. Parce que, par exemple, passer le repas du Seigneur, c'était juste des hommes. Puis on disait, ben, pourquoi c'est juste des hommes au juste? C'est quoi la base de cette réflexion-là exactement? Ou est-ce que les diacres étaient seulement des hommes? Puis on disait, ouais, mais la Bible parle de diaconesse. Pourquoi on pratique pas ça? Et tranquillement, à travers les années, on a essayé d'adresser ce sujet, de dire, pourquoi on met des limitations là où ce que la Bible en met pas? Elle met des consignes, mais à d'autres endroits, elle n'en met pas. Et souvent, toutes ces choses-là sont un reflet de notre culture évangélique, qui est d'une famille à l'autre, d'une église à l'autre, et d'une époque à l'autre, change parce qu'elle est aussi influencée par l'époque dans laquelle on vit, n'est-ce pas? Et on doit revenir aux Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne et qu'est-ce qu'elle ne dit pas et qu'on s'impose, nous, comme privation et qui n'est pas dans les Écritures? De l'autre côté, on est confronté aussi à des églises. Et si vous êtes ici, vous avez certainement une croyance similaire à l'église baptiste pour la plupart, si vous êtes ici, sur le rôle de l'homme et de la femme. Alors, je ne prêche pas non plus à une foule qui n'a pas la même position ou pour qui c'est une surprise que je vais vous partager aujourd'hui des Écritures. Mais tout de même, on est confronté d'une époque où ce que vous ouvrez le téléviseur anglophone et vous allez trouver des prédicateurs bien connus comme Joyce Meyer, qui est fort appréciée, qui est percutante. Et là, on lit la Bible, dit, ouais, mais il semble pas que la Bible met les femmes comme pasteurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des différences entre même évangéliques sur la question du rôle de la femme? Et on doit quoi faire? Revenir aux Écritures. Sinon, c'est la culture autour qui dicte ce qu'on fait, plutôt que la parole de Dieu, qui, elle, instruit et qui fait l'homme et la femme dès la création, avec des raisons intentionnelles, et qui donne des consignes et des rôles à l'homme et la femme, parce qu'il est le créateur. Et c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui qui a dicté les règles, sans nous consulter, vous savez. Il n'y a pas pris un vote non plus là-dessus. Dieu a juste décidé, pour une raison qui lui appartient complètement. Et donc, on est devant un débat contemporain qui pèse beaucoup et qui fait aller à toutes sortes de discours et d'arguments. Et dans le monde actuel, trois grandes lignes vont manière de regarder ce texte sont populaires et sont en cours d'écriture et évoluent de chaque année. Et à tous les années, des nouveaux livres, des nouvelles angles. Et il y a une grande pression extérieure sur le rôle de la femme qui s'exerce sur l'Église présentement. Et qui mettent la pression pour que l'Église change sa manière de voir l'homme et la femme. Pour même en arriver aussi avec des mariages même de même sexe. Tout ça est tout entrelié ensemble, cette pression de la société sur comment on devrait se comporter à l'Église et que l'Église devrait changer ses enseignements. L'inconfort des positions, évidemment, du monde protestant évangélique est très fort. Et j'aimerais vous donner juste quelques impressions, quelques opinions sur le sujet qui vont amener une différence d'opinion sur le texte qu'on va regarder ce matin. Certains regardent ce texte et vont dire ceci. L'argument est la suivante. Chaque fois que Paul met une restriction sur le rôle de la responsabilité de la femme dans l'Église, c'est uniquement en raison d'une situation spécifique dans l'Église et cette consigne-là est seulement pour l'Église à ce moment-là dans l'histoire et non de manière générale. Et donc, la manière de tasser cette prescription-là qu'on va lire, c'est de dire, il adressait un problème doctrinal à Éphèse. Et donc, sa consigne, c'est seulement pour Éphèse, c'est pas pour toutes les églises, c'est parce que là-bas, il y avait des problèmes doctrinaux particuliers, ou des femmes qui voulaient prendre plus de place, et là, il donne une consigne spécifique à cette église-là, et c'est donc juste temporel, ce n'est pas atemporel. On va regarder aujourd'hui si cet argument-là tient, est-ce que c'est vraiment un argument temporel, ou c'est atemporel? C'est quoi l'argument de Paul pour dire une telle consigne? Et ça, c'est très populaire. Mais si c'est le cas, il faut tout à coup effacer bien les passages de la Bible, parce que cette position va dire, tu vois, il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme. Mais pourtant, il y a des consignes très claires sur le rôle de l'homme et la femme dans le mariage, qui sont différents. Et si on commence à faire des distinctions comme ça et les enlever, on crée d'autres problèmes, parce qu'un homme et un homme ne pourront pas avoir d'enfants et faire la procréation. Ni une femme avec une femme. La raison pourquoi Dieu les a dessinés comme ça, c'est parce qu'ils se complètent et permettent à d'autres êtres vivants, selon l'ordre de Dieu, de naître d'un tel couple. Si on commence à tourner la page là, il faut commencer à effacer les passages de la Bible. Il faut commencer à réinterpréter toute la Bible. D'autres positions vont dire tout simplement, bien, vous savez, ici, Paul n'est pas cohérent. Il est incohérent, et parfois il est incohérent, il faut revenir aux passages les plus cohérents pour les passages les moins cohérents. Et là, à nous de dicter évidemment quels passages sont cohérents et quels passages sont pas cohérents selon nous, selon notre époque. Il cède à la culture juive traditionnelle, tout simplement, Paul. Il y a la pression de la culture juive. Et quand ailleurs il parle d'une éthique égalitaire, il parle de l'esprit de Jésus. Mais quand il ne parle pas d'un esprit égalitaire comme celui-ci, c'est pas l'esprit de Jésus, c'est simplement parce qu'il est sous la pression d'exercer une direction selon les coutumes juives. Et là, on impose les coutumes de l'époque pour interpréter et réinterpréter le texte et enlever l'autorité de ces passages-là. D'autres encore, une troisième façon serait tout simplement de dire ceci, et elle n'est pas prédominante, mais elle est bien présente, c'est qu'en fait, il faut suivre l'éthique qui progresse dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'était serré sur le rôle de l'homme et la femme. Jésus est venu, et là, c'est devenu moins serré. Et là, nous, on n'a pas le reste, mais il faut continuer cette ligne de progression, en quelque sorte. Vous me suivez? Et c'est à nous maintenant d'implanter une éthique encore plus grande à notre époque, qui suit cette ligne de progression. Et c'est comme si on fait une distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, comme s'il n'y avait pas la même consigne, les mêmes prescriptions que Jésus a données, qui lui cite l'Ancien Testament, et retourne à l'Ancien Testament comme autorité pour les principes du Nouveau Testament, et qu'il y avait une sorte de progression au niveau du rôle de la femme, ce qui n'est pas factuel dans les Écritures. Et dans le monde évangélique, il y a beaucoup d'autres arguments ou approches que je vous mentionnerai un peu plus tard. Tout ça pour vous dire qu'il y a une variété d'opinions, qui certaines attaquent l'intégrité des Écritures, d'autres n'attaquent pas l'intégrité des Écritures, mais il y a une pression extérieure qui amène une influence pour l'interpréter d'une certaine façon. C'est pas évident. Et c'est ce qui fait qu'on a une variété d'opinions dans le monde, et même dans le monde évangélique, une variété de prises de position sur ce passage, qui fait partie des 3-4 passages clés sur la question, justement. Je vous lis cette citation que j'ai trouvée fort juste par un prédicateur que j'apprécie. Il dit ceci, « Le message de l'Évangile eut un énorme impact sur elles, les femmes, car il affirmait leur valeur devant Dieu et leur égalité dans le corps de Christ. » Et ça, c'est vraiment important. À l'époque de Jésus, l'Évangile et le retour de Jésus dire non, vous n'êtes pas en train de pratiquer, vous pratiquez une religion, vous n'êtes pas en train de pratiquer ce que Dieu a prescrit. » Et ça choquait, évidemment, les mœurs religieuses de l'époque. Et Jésus va redonner par l'Évangile un statut de respect envers les femmes et les hommes d'une manière égalitaire, tout en maintenant la distinction biblique que Dieu fait dans les Écritures. Les femmes occupaient un rang inférieur dans le monde romain, mais l'Évangile devait changer cette situation. Et là, dans les pays où ce que l'Évangile apporte un changement, elle apporte toujours un changement également sur la question des rôles de l'homme et de la femme, qui sont souvent les femmes méprisées dans la majorité des religions. Mis plus basse, autant dans la religion juive qui s'est développée jusqu'à l'époque de Jésus, que dans plein de religions aujourd'hui qui n'ont aucun lien avec la chrétienté, que ce soit au niveau de la réincarnation, la position de la femme là-dedans, qui est ridicule et qui est humiliante pour la femme, ou dans bien d'autres religions qui étouffent la femme et pour lesquelles elle a le moins de droits que l'homme, etc. Et là où ce que l'Évangile est mis en pratique, rappelez-vous ceci, le rôle de la femme est valorisé. Quand ce n'est pas le cas, c'est parce que l'Évangile n'est pas mis en pratique. Maintenant, qu'est-ce que veut dire valoriser selon nos valeurs aujourd'hui, de notre époque, ou selon ce que la Bible dit et selon les mœurs qu'on peut comparer? Mais on va approfondir tout cela, on va lire quelques versets et demander la sagesse de Dieu avant d'aller plus loin dans 1 Timothée chapitre 2. Et on va relire à partir du verset 8 pour se remettre en contexte. On vient de parler de la prière. Et là, ici, dans les versets 8 à 10, il va adresser les attitudes masculines et féminines que Dieu veut adresser lorsqu'on va s'adresser à lui dans la prière. Quelle sorte d'attitude Dieu s'attend de l'homme et de la femme lorsqu'il s'approche de lui pour le prier? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant les mains vers le ciel, les mains, saintes, sans colère ni dispute. Ça, c'est pour nous, messieurs. C'est l'attitude que Dieu s'attend de notre part. Lorsqu'on s'approche de lui dans la prière, on n'a tout qu'un défi, les hommes. Maintenant, les femmes, quant aux femmes, qui ont la même prescription, mais là maintenant, d'autres choses qu'elles sont mises sur leur attitude, qu'elles aient une tenue décente, qu'elles se parent avec pudeur et modestie, ni tresses, ni bijoux, ni perles, ni toilettes somptueuses. Évidemment, ça, c'est tout assujetti aux mœurs de l'époque et nos mœurs aujourd'hui sur comment notre vestimentaire exprime de la modestie d'une époque à l'autre et d'une culture à l'autre. C'est différent. Mais le principe, c'est la modestie, la pudeur. Mais qu'elle se pare, donc au lieu de se parer l'extérieur avant tout, au contraire, de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de piété ou de crainte de Dieu. Donc, c'est les deux sexes et les deux attitudes qui sont invitées, chacun leur défi dans leur approche de Dieu dans la prière, à considérer. Et là, maintenant, il dit, pendant l'instruction de la femme, et c'est drôlement traduit dans la Tob ici, j'aime pas cette traduction, plutôt qu'elle soit instruite, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer sur l'homme, qu'elle se tienne en silence. On va tout expliquer ça d'un instant. C'est très silencieux présentement. Pourquoi? C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier. Ève, ensuite. Et deuxièmement, ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui fut séduite et tomba dans la transgression. Cependant, et là donc on fait le lien avec ce qui vient d'être dit sur la transgression, cependant elle sera sauvée par sa maternité. Et là, déjà là, on a comme une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Elle va être sauvée par la maternité. À condition de persévérer dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Je sais que ça crée beaucoup de questions. On va prier le Seigneur pour lui demander sa sagesse, pour apporter de l'éclairage, guidé par l'Esprit de Dieu en lisant ses Écritures. Père Céleste, merci pour tes bontés envers nous. Et merci pour ta parole qui, avec courage, encore aujourd'hui, rectifie les mauvaises perceptions sur l'homme et la femme. Et ça fait toujours réagir, Seigneur. On te prie de nous conduire par ton esprit, à te faire confiance, de me diriger, Seigneur, pour parler avec justesse, Seigneur, des Écritures, d'enlever les obstacles, les mécompréhensions, de comprendre ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, et de savoir apprécier comment tout cela est lié à l'Évangile de Jésus-Christ. Conduis-nous dans ce temps ensemble. Merci pour nos membres, tantôt qu'on a célébré leur fidélité. On veut célébrer ta fidélité en eux. Parce que lorsque nous sommes fidèles, c'est parce que tu nous rends fidèles. Nous voulons, Seigneur, te prier aussi pour les offrandes qui ont été données discrètement derrière, qui sont une expression de notre adoration pour te dire merci, Seigneur. Loué sois-tu, merci de m'avoir sauvé. Voici une simple expression de mon amour, de mon appréciation pour toi, de ce que tu me donnes si généreusement. Bénis ce temps, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Je dois vous confesser ce matin que, en lisant le texte juste avant la prière, j'ai regardé Benoît et j'ai vu dans son visage tout ce qui était dit dans son visage. Il se disait, « Et que je suis content que c'est toi qui es en avant. » Il disait dans son cœur, « Vive la retraite. » Alors, je sais qu'il est très jaloux, mais bon, c'est comme ça. Et vaut mieux en rire, justement, devant ces défis, d'un texte comme celui-ci. Maintenant, remarquez bien ici, dans ce qu'on vient de lire, Paul n'est pas en train de dire ceci. Il n'est pas en train de dire, nous allons faire comme les synagogues, les amis, et comment le judaïsme nous enseigne de faire les choses. Non. Il ne fait pas référence à la religion juive. Et donc, il n'est pas en train de dire, voici ce qu'on va garder de la religion juive ou pas. Voici ce qu'on va garder des pratiques dans les synagogues ou pas. Il parle des gens d'Éphèse. Il n'est pas en train de dire, voici ce que vous avez appris à Éphèse dans vos temples. Voici ce qu'on le fera ou on ne fera pas. Non. Il donne les prescriptions tout simplement, sans mentionner rien à la culture au niveau de la position de l'homme et de la femme, de la part de Dieu. Ainsi, il parle plutôt avant de la prière publique, parce qu'il parle ici du comportement dans l'Église. C'est clair dans le contexte, au chapitre 3. Voici comment vous devez vous comporter dans l'Église en attendant que je vienne. C'est clair. On parle du comportement dans l'Église. Il ne parle pas du couple non plus ici, il parle de dans l'Église, alors qu'on se rencontre comme ça ici ensemble pour louer le Seigneur. Et il adresse la prière publique de l'homme et de la femme, et chacun instruit par Dieu sur comment se comporter, quelle attitude il s'attend de chacun de nous. Et là maintenant, sur cette question de l'enseignement, qui peut enseigner, qui ne peut pas enseigner, et pourquoi? Et c'est pour ça aussi que la semaine prochaine, on va être rendu au chapitre 3, et on va parler des qualifications des hommes, parce que c'est pas tous les hommes à qui Dieu appelle ça. Et c'est quoi leur qualification? Et c'est qu'est-ce qu'on s'attend de eux? Et quelle va être aussi leur responsabilité de répondre devant Dieu de la tâche qui leur est confiée? Parce qu'avec toute responsabilité vient aussi, en anglais on appelle accountability. Je sais pas comment le dire en français, là, mais l'imputabilité, c'est bon ça. On est redevable devant Dieu de ce qu'il nous confie. Maintenant, la liberté nouvelle acquise par les femmes d'Éphèse en Christ pouvait aussi apporter bien des tentations dans la communauté chrétienne, de voir comment la communauté chrétienne avait des libertés qu'on n'avait pas en société, qui étaient différentes d'un bord et de l'autre, et d'apporter des réponses très variées à cela. Et on voit dans les Écritures que la Bible appelait les hommes et les femmes, et ils prophétisaient d'avance dans Joël, par exemple, et on le voit dans Actes et dans Corinthiens, les hommes et les femmes pratiquaient dans le culte la prière, et même la prophétie. Et là, c'est un autre sujet, la question de la prophétie, qu'on peut regarder dans Corinthiens, et dont les séries dans 1 Corinthiens ont été adressées par le pasteur Benoît et sont sur le site de l'Église, sur ces passages en question. Deux détails qui seraient importants à enlever ou préciser avant d'aller plus loin dans les versets qu'on vient de lire. Premièrement, remarquez bien, et là, les traductions ne le font pas tous de la même façon, mais on dit au verset 11. Et là, je vais lire dans le français courant. Il faut que les femmes reçoivent l'instruction. Et j'aime mieux cette traduction-là parce que c'est un impératif. Il faut qu'elles reçoivent l'instruction. La première chose à remarquer dans ce texte, c'est que Paul encourage et donne une ordonnance à l'impératif que les femmes de l'Église soient instruites. C'est vraiment important. Devant le fait qu'on parle de soumission, tout à coup, nos oreilles sont bouchées, on n'entend plus rien. Après ça, on entend qu'elle ne peut pas enseigner, on n'entend plus rien. Mais juste avant, Paul a dit, je veux que les femmes de l'Église soient instruites dans la parole de Dieu. Et Jésus l'a démontré, par exemple, avec le commentaire qu'il fait lorsque Marthe et Marie ont un des commentaires. Il dit, non, elle a choisi la bonne part, elle s'assit, elle écoute. Et d'avoir le Messie qui l'instruit de s'asseoir, c'est la meilleure chose à faire pour elle. Une femme qui s'appelle Judith Wegner, qui a écrit des articles à ce sujet-là, elle dit ceci. L'image et le statut de la femme dans le judaïsme rabbinique classique de l'époque démontrent clairement que la littérature juive de cette période révèle que les rabbins s'opposaient systématiquement à l'étude de la Bible et des prescriptions juives pour les femmes. Ce qui était mal, ce qui n'était pas écrit dans la loi de Dieu, dans les livres de Moïse, nulle part. C'était la religion qui avait ajouté ça et qui brimait la femme. Elle met en lumière les stratégies utilisées même par les rabbins pour limiter l'étude sérieuse de l'Ancien Testament aux hommes. L'une de ces stratégies, que pour les hommes ici, consistait à empêcher le rassemblement des femmes juives en petits groupes pour étudier le judaïsme ou la Torah, décourageant ainsi l'activité d'études sérieuses de l'Ancien Testament pour les femmes. Et Paul vient ici dire, à l'instar de Jésus, que les femmes soient instruites. C'est une bonne chose que les hommes et les femmes soient instruites dans la parole de Dieu. Et c'est un ordre ici. Donc, première chose à retenir. Ensuite, on a cette expression « en silence ». Qu'est-ce que ça veut dire, « en silence » ? Premièrement, j'aimerais vous dire ici que le mot qui est choisi n'est pas un mot qui arrive souvent. Et quand on l'étudie, on réalise qu'il ne veut pas dire « ne pas parler ». Il y a un autre mot qui est très clair pour dire « de pas parler ». Ici, le mot est traduit au début du chapitre pour parler d'être paisible, pas de ne pas parler. Pas, je lui permets pas d'avoir, de sortir un mot de sa bouche, mais d'écouter en ayant une attitude paisible. Et c'est le mot qui est utilisé là, qu'on utilise au verset 2, le même mot qui est utilisé à quelques reprises, seulement 5 fois dans le Nouveau Testament. Mais si on voulait prendre le mot précis que Jésus utilise pour parler à un démon, tais-toi! C'est pas le même mot qui est utilisé. Beaucoup plus catégorique de ne pas parler du tout. Mais ce texte est en harmonie avec ce qu'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 14. Lorsqu'il parle à la fin du chapitre 14, le même terme est utilisé pour qu'est-ce qui est de parler en langue et de l'évaluation d'une prophétie. C'est les anciens qui sont appelés à le faire et il dit aux femmes de se taire, d'être paisibles dans ce contexte-là. Et les deux textes utilisent la même expression pour parler de cette attitude d'être paisible et dans un esprit de soumission volontaire dans l'esprit des Écritures. Qu'est-ce que cette expression-là veut dire? Ultimement, ce que cette expression-là est en train de dire, c'est que je veux que les femmes soient en train d'être instruites dans la parole de Dieu, mais avec une attitude enseignable. Une attitude de réceptivité. Je veux pas qu'ils soient brimés à ne pas pouvoir étudier, à pouvoir être instruits. La parole de Dieu est pour hommes et pour femmes. Et les deux ont besoin de connaître Dieu. Et c'est ce que les Écritures servent, à connaître Dieu et à approfondir notre relation avec lui. Mais ces deux expressions-là vont de pair pour décrire, et même parmi les égalitaires, ils vont utiliser cette expression-là pour dire, pour parler d'une attitude enseignable, de réceptivité. Et donc, c'est vraiment important, cette nuance. Et là, j'ai un PowerPoint et je ne suis pas en train d'avancer dedans. Alors donc, on est dans la deuxième partie de « Être pieuse et heureuse » avec l'Évangile. Pardonnez-moi un petit instant. J'ai besoin de pouvoir voir aussi pour pas regarder en arrière. Et maintenant, les femmes et l'enseignement. Et donc, un sujet controversé et sensible. Les versets clés sont dans ce texte et dans Corinthiens. Et donc, la série dans Corinthiens permet aussi d'aller plus loin pour approfondir. Et on apprend ici que la femme vit l'Évangile en s'instruisant et en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est déjà la première chose qui est ici parce qu'il y a un impératif qui est vraiment important. Donc, avant de regarder ce qu'elle ne peut pas faire, voici ce qu'elle peut faire. Moi, j'arrive pas à l'ouvrir. Merci beaucoup, Fabien. Maintenant, je vais aborder ici la question polémique. C'est important qu'on réalise que, alors qu'on regarde les Écritures, dans 98% du temps, les Écritures sont claires, les passages sont limpides, il y a d'autres textes qui éclairent. Mais il y a un 2%, selon différentes théologies, approximativement des textes de Nouveau ou de l'Ancien Testament qui peuvent être plus polémiques que d'autres. Et celui-ci fait partie des plus polémiques sur lesquels il y a beaucoup d'opinions. Et même dans le monde évangélique, j'en ai parlé tantôt dans le monde évangélique plus large, les protestants, j'aimerais vous parler de 4 positions ici sur la question de la femme ne peut pas enseigner. Qu'est-ce que d'autres évangéliques comprennent de cette prescription? Et je commence par, j'en décris 4. Simplement, et j'essaie de les regrouper pour pas aller trop loin, de les résumer pour pas non plus faire quelque chose ici de trop académique sur cette question. La première fait référence ici tout simplement au passé, ne s'applique pas au présent. C'est une prescription pour cette époque-là, pour un problème local, point à la ligne. Le passage qu'il faut se fier dessus, c'est strictement le fait que Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 28, qu'il n'y a plus devant Dieu homme, femme, esclaves, différentes cultures et que nous sommes égaux. Et donc, par ce passage-là, qui interprète toutes les autres qui sont pas claires, la prescription de ce texte est liée strictement à des besoins liés à Éphèse et non d'autres choses. Et c'est la position, par exemple, que les églises Pentecôtes du Canada ont comme position, avec quelques petites variantes, mais essentiellement cela. Donc, la position égalitaire, et lorsqu'on a un texte qui n'est pas clair sur la question égalitaire, on peut l'interpréter en disant simplement que ce texte-là était lié strictement à des problèmes locaux, et donc c'est une prescription pour Éphèse à cette époque, point à la ligne. La ligne de code, c'est de suivre Galates, chapitre 3, verset 28. Le problématique avec cela est le suivant, c'est que là, on doit réinterpréter les textes à partir d'un autre texte, et ce texte-là ne parle pas de la position de l'homme et la femme. Il parle strictement du fait que tous sont sauvés sans distinction, alors qu'avant, il y avait une distinction entre juifs et non-juifs. Par l'alliance que Dieu avait faite avec les juifs, il fallait passer par la communauté juive qui avait la loi de Dieu. Il fallait s'attacher à la communauté juive qui était le témoin de Dieu dans l'Ancien Testament. Et on a vu plein de gens comme ça se joindre à la communauté des croyants en Israël, que ce soit Ruth et bien d'autres hommes à l'époque de David qui se sont joints à son armée, qui venaient de d'autres pays. Il y avait beaucoup de prosélytes qu'on appelle de gens qui se joignaient. Le Nouveau Testament nous dit, là, je ne passerai plus par Israël. Tous font partie du corps de Christ. Et ce texte est en train de nous parler du salut en Jésus-Christ. Il ne nous parle pas du rôle de l'homme et de la femme, puisqu'après ça, il va rétablir que même dans l'Église, écoutez, ceux qui ont des maîtres, ceux qui sont employés, employeurs, il faut respecter nos différents rôles. On n'a pas inversé ça avec l'Évangile. Il va réexpliquer tout ça, comment on le vit dans l'Église, homme-femme, employé-employeur, enfant-parent. Là, ça fait non sens. Si tout est égal, puis que finalement, il n'y a plus personne qui doit suivre personne, il n'y a plus de chef de nulle part, tout le monde est égalitaire, puis on n'a plus le droit de dire plus rien à personne. Parce qu'il n'y a plus d'ordre. On vient abolir tout cela. C'est une mauvaise compréhension, à notre sens, qui est évident et qui amène de la distorsion dans plusieurs textes pour les faire, finalement, harmoniser ensemble. C'est la position de les Églises Pentecôtes du Canada, dans un texte qui date de plusieurs années, pour la position qu'ils ont pris. Deuxième position se réfère ici tout simplement au couple. Ça parle pas d'église ici, ça parle du couple. Et donc la soumission et cette attitude-là est seulement exprimée dans le couple, pas dans l'église, dans la grande assemblée. Et là, on va y imputer un contexte qu'on parle du couple, alors que rien dans le texte ne pointe dans ce sens-là, puisqu'on parle de la grande assemblée dans le texte ici, la prière publique, et qu'on parle dans le texte suivant de comment on doit se comporter dans l'église. Le contexte nous dit le contraire, mais pour amoindrir le fait que ça empêche la femme d'enseigner, ben on l'a mis, pour certains, le couple comme contexte, et on l'a appliqué strictement au niveau du couple, et donc la femme pourrait enseigner dans l'Église dans cette position-là. Maintenant, ça apporte beaucoup de problématiques pour rendre cela cohérent, mais c'est un autre sujet, et ce n'est pas la position de l'Église, et c'est une position difficile à tenir, même dans le milieu académique également. L'autre position, et c'est les deux prochaines qui sont plus communes dans nos milieux évangéliques et même évangéliques baptistes, c'est les deux positions suivantes. Est-ce que lorsqu'on lit le verset, et je vous invite à le regarder, le verset 12, est-ce qu'il y a deux choses distinctes ou une seule pensée? C'est-à-dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, lorsque je lis les versions tombe ici, ni de dominer sur l'homme. Est-ce que, dans le fond, il est en train de dire que je ne permets pas à la femme d'enseigner avec une autorité sur l'homme et que c'est une seule et même idée ou c'est deux distinctions? Que je ne permets pas d'enseigner et je ne lui permets pas non plus d'exercer l'autorité sur l'homme. Les positions vont se différer sur cette compréhension-là. Le texte grec m'apparaît tout à fait simple et met une opposition claire et une distinction entre les deux phrases, même beaucoup plus grosse qu'en dans le français, lorsqu'on le regarde, pour distinguer les deux idées comme deux prescriptions. Mais certains vont voir ici une seule et même idée. Et la différence est la suivante, c'est que cela permet à la femme d'enseigner dans la mesure où elle ne le fait pas avec autorité. Et certaines églises évangéliques, donc, vont aborder cette question-là, dire elle ne peut pas devenir docteur des Écritures. Le chapitre suivant est clair, elle ne peut pas devenir pasteur. C'est un rôle qui est donné aux hommes. Il y a des hommes très spécifiquement qualifiés et reconnus par l'Église. Mais elle pourrait enseigner, mais sans autorité. Et des églises très proches de nous partagent cette opinion, même si dans la réalité, ça s'exprime peu souvent, mais qu'une femme puisse venir enseigner sur une base régulière, mais pas dans le rôle d'être le pasteur de l'Église. Et même dans les églises qui sont égalitaires, vous savez, pour être bien honnête, où ce qu'on permet à la femme d'être pasteur, dans la réalité, les statistiques nous montrent que c'est seulement 3% de ces églises-là qui vont réellement avoir une femme pasteur dans le rôle de pasteur principal enseignant. Généralement, ils vont avoir un rôle de responsable de l'éducation chrétienne et vont porter le titre de pasteur de l'éducation chrétienne. Nous aussi, on a des responsables d'éducation chrétienne qui peuvent être hommes et femmes sans avoir le titre de pasteur. D'autres vont avoir aussi le pasteur des femmes Mais dans nos églises, on a des comités où une femme qui va être en charge du ministère des femmes, qui portera pas le titre de pasteur des femmes, mais qui va être responsable de ce ministère-là. Dans les églises égalitaires, on va leur donner le rôle d'être pasteur des femmes. Mais dans la réalité, même là où ce que c'est considéré égalitaire dans le milieu évangélique, c'est seulement 3% aux États-Unis comme au Canada qui vont l'exprimer réellement dans un leadership féminin de l'église comme rôle principal de leadership et d'enseignement. Donc, c'est-à-dire que même là où ce que c'est pratiquer, c'est pratiquer avec une infime minorité dans son expression, ce qui donne aussi une sorte de message contraire, en quelque sorte, pour être très factuel. Et donc, certains vont considérer que de le faire de cette façon-là, ce serait harmonieux, puisque la Bible permet, dans Corinthiens, que la femme puisse prier en public, qu'elle puisse prophétiser, et pour eux, si la femme prophétise, donc, comment on peut prophétiser sans autorité? Mais nulle part on retrouve que la question de prophétiser a en elle une évaluation d'autorité, puisque c'est les anciens à la fin du chapitre et qui sont invités à évaluer les prophéties et non les femmes dans ce rôle-là. Donc, la prophétie ne parle pas ici d'être en autorité, elle doit être évaluée pour reconnaître si elle vient de Dieu ou pas, de toute façon, par l'équipe pastorale. Et donc, on met des objections à cela, mais en réalité, le texte ne le prescrit pas comme tel. Il fait une différence entre enseignant. Être enseignant, ce qui est le cas ici, je ne permets pas à la femme d'enseigner ou d'être enseignante. Littéralement, le verbe se traduirait mieux par être enseignant. Et le fait d'avoir la prescription d'apprendre et d'instruire, ça, c'est appliqué aux femmes. D'instruire même les enfants, d'instruire d'autres femmes qu'on retrouve ailleurs. Maintenant, ceci étant dit, on revient ici au texte. Et la position de l'Église est la suivante, c'est que c'est deux prescriptions et non une seule. C'est la lecture la plus simple du texte, à notre sens, et celle-ci est tout à fait en harmonie avec ce qu'on retrouve dans les autres textes, où ce qu'il n'y a pas d'autorité qui est donnée face à la prophétie ou au fait de prier en Église, et en harmonie aussi avec ce qu'on retrouve au niveau, par exemple, de Jésus, qui a choisi 12 apôtres, que les rôles de pasteurs sont toujours donnés et aucune femme n'est nommée ancien dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'Ancien Testament, le rôle de diriger le peuple. Paul énonce des critères de pasteur ancien dans chapitre 3 qui sont clairs pour les hommes. Il n'y a aucune mention de pasteur dans le Nouveau Testament. Et Paul justifie le leadership masculin dans l'Église en se basant sur l'ordre créationnel qu'on va regarder dans un instant. Donc, contrairement à certaines positions, nous considérons comme équipe d'anciens que cette position-ci de voir les deux comme distinctes est plus harmonieuse et respectueuse du texte et de l'ensemble du Nouveau Testament. Et à ce niveau-là, toute l'équipe pastorale est unanime sur cette compréhension et la mise en pratique de cela. Maintenant, c'est important ici de savoir que dans nos milieux évangéliques, des hommes et des femmes respectables qui aiment le Seigneur, qui apportent l'Évangile, ont des différends là-dessus et ça demande de notre part beaucoup de respect, de reconnaître qu'il y a des différences là-dessus et que quelqu'un qui ne pratique pas la même compréhension du texte n'est pas un évangélique, n'est pas un libéral ou n'importe quel qualificatif que vous avez entendu. C'est important d'arriver avec cela avec humilité et dire, on voit dans les Écritures une distinction, on prend les Écritures ici telles quelles, on regarde que d'autres le font différemment, mais sont évangéliques, aiment le Seigneur, prêchent l'Évangile, baptisent les nouveaux convertis, les conduit à la foi et en fait des disciples, ils peuvent arriver à des distinctions sur ce sujet-là et de se respecter là-dedans. Et même dans l'Église, on est membre dans l'Église et certains n'ont pas exactement la même position sur cela ou sur d'autres questions et dans lequel on décide de rester dans le respect. De dire, voici la position de l'Église, mais ça fait pas partie d'un élément essentiel pour être sauvé. Ça fait partie de ces questions pratico-pratiques importantes qui ont des implications, mais sur lesquelles nous avons besoin d'humilité et de respect mutuel. Et c'est vraiment important. On peut être convaincu de notre position, être capable de l'articuler et pourtant être capable de le faire dans le respect. Et une des choses qui est difficile souvent sur la question de homme-femme, justement, c'est qu'on est très réactif à une église du passé ou à une expérience du passé, à comment on s'est senti chez nous. Et c'est important donc de le communiquer avec respect. Si vous avez remarqué la semaine passée, pour moi c'était important qu'on passe du temps à enlever des roches sur le chemin, sur des mauvaises compréhensions et sur l'attitude que Dieu veut qu'on ait. Pourquoi? Parce que la Bible nous invite à dire la vérité avec amour, avec respect. En sachant aussi que dans l'Église, il y a une variété d'opinions, une variété de positions et d'expériences dans l'Église et dans les foyers qui amènent chez nous des réactions, des sensibilités. Et ça nous impose comme pasteur de prendre le temps aussi de le faire avec beaucoup de délicatesse et de respect et qu'on peut avoir des divergences sur cette question-là sans se crêper le chignon, si je peux me permettre comme expression. Est-ce que vous me suivez sur cette question-là? C'est important, la question de respect mutuel, et de voir d'autres églises qui pratiquent différemment cette question-là. Maintenant, pourquoi Paul utilise cet argument-là? Et là, ici, je pourrais aller dans des détails et des détails argumentaires, mais je ne veux pas le faire. Ceux qui voudraient lire davantage, vous êtes le bienvenu de m'écrire, j'enverrai mes notes. Vous pourrez vous casser la tête sur plein de petits détails, sur des virgules grecques, etc. Pour ceux que ça intéresse, ça va me faire plaisir de partager. Mais je ne pense pas que ici, devant tous, c'est vraiment la place pour aller dans ces détails-là et passer une heure sur des virgules et des détails de toutes sortes. Okay? Et c'est pour ça que j'essaie de résumer, des pas de trop m'étendre sur certains détails. Les femmes et l'enseignement. Les interprétations, donc, sont diverses, et c'est important de le savoir, et d'être respectueux dans tout cela. Le rôle de l'homme c'est le rôle de l'homme qualifié d'enseignement, d'enseigner l'Assemblée avec autorité. On va le voir la semaine prochaine dans le chapitre suivant. La femme vit l'Évangile en exerçant ses dons sous la responsabilité des anciens. Et c'est ce qu'on voit cela tout au long du Nouveau Testament. Dieu établit des anciens qui sont choisis et reconnus dans leur appel par l'Assemblée, qui est composée d'hommes et de femmes, qui voient cet appel-là et qui reconnaissent les pasteurs de l'Assemblée, qui leur sont présentés et pour lesquels ils ont une responsabilité de reconnaissance ou de ne pas reconnaître. Maintenant, c'est quoi l'argument de Paul pour cela? Est-ce que l'argument est lié à sa société? Et si vous avez remarqué jusqu'à présent, il ne parle pas de culture juive, il ne parle pas de culture grecque, et il y en a qui vont passer des pages et des pages dans leur livre de parler de ces deux cultures-là pour montrer qu'il réagit à ça. Mais qu'est-ce que Paul dit comme argument? C'est vraiment important. Et c'est ce qui vient distinguer ici le fait, est-ce que le texte est temporel, lié à leur époque, ou est-ce qu'il est atemporel? Et s'il est atemporel, pour toutes les époques, mais sur quoi on se base pour dire une telle chose? Que ça devrait être comme ça en Amérique du Nord, en Chine, il y a 100 ans et il y a 200 ans, et que ça demeure la même prescription de Dieu. Mais c'est l'argument sur lequel est basée cette parole. Et je vous relis le verset 13 et 14 qui nous dit ceci. « Car c'est Adam, en effet, qui fut formé le premier et Ève ensuite. » Il retourne, tout comme dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à un argument qui n'est pas lié à l'intelligence, un argument qui n'est pas lié aux capacités, un argument qui n'est pas lié à celui qui est le plus fort, un argument qui n'est pas lié à la culture locale de la vision de l'homme et de la femme, de ce qui se pratique dans les religions autour. Il retourne à Genèse chapitre 1 et comment la création s'est faite de la part de Dieu. Il nous dit, en regardant comment il l'a créé, ça nous dit quelque chose. Et Paul utilise le même argument que Jésus a fait dans les évangiles. Jésus, pour ces questions-là, retourne Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Et dire c'est un principe créationnel, un principe d'ordre de création, où ce que l'homme a été créé en premier, et la femme a été créée en second, et il est venu là pour le secourir. Il y avait un complément qui est tout seul, il ne pouvait pas vivre, et que Dieu lui fournit par la femme comme une âme vis-à-vis différente, qui lui vient en secours et qui lui permet de travailler en équipe, parce que seul, il n'y aura pas de prochaine génération. Seul, c'est impossible. Et donc, il met les deux ensemble et dit, l'ordre créationnel nous dicte que l'homme a un rôle de chef, de leadership, de serviteur auprès de son foyer, par l'ordre dont Dieu a fait l'homme et la femme. That's it. Il n'insinue rien d'autre que l'ordre créationnel, l'homme en premier, la femme est venue ensuite. Il ne parle pas ici d'importance de l'homme et de la femme. Il parle strictement de rôle par l'ordre créationnel. Et ensuite, il donne l'argument, mais là en plus, c'est la femme qui est tombée en premier séduite. Et le mot ici est intéressant, le grec utilise un verbe duquel on a le mot en français, appâté. Elle a été appâtée par le diable. Et on nous dit ceci, elle est tombée en premier et l'homme ensuite dans la transgression. Ah! Ça y est, ça veut dire que les femmes sont plus faciles à séduire que les hommes. Fait que c'est pour ça que ça devrait être les hommes qui en fait, parce qu'ils ont plus de discernement. C'est-tu ça que la Bible dit? Vous avez senti ça quelque part? Ça, c'est ce qu'on appelle un argument du silence. On déduit quelque chose avec une idée préconçue de ce que le silence insinue. Vous me suivez? La Bible dit pas ça. Au contraire, Paul nous dit que l'homme est 100% responsable dans Romains chapitre 5. Il dit l'homme est 100% responsable. Alors, il n'est pas en train de dire que la femme est responsable en premier. Il donne encore là juste un ordre chronologique. Regardez, dans la relation homme-femme, la première qui est tombée, c'est aussi une femme. Point à la ligne. Si on déduit plus que ça, là, on fait dire au texte des choses. Maintenant, certains vont interpréter, mais tu vois, dans ce cas-ci, c'est parce que l'homme n'a pas été un leader et la femme a pris le leadership et c'est ce qu'il veut adresser ici. C'est possible, mais il ne l'explique pas. Alors, il faut le faire avec beaucoup d'humilité, ce qu'on veut interpréter du silence et de l'argument, si ce n'est que ce qui est clair, c'est que c'est un principe créationnel et qu'il vient en deuxième vague avec un deuxième argument, encore qui maintenant passe du chapitre 2 au chapitre 3 de Genèse, pour dire, mais en plus aussi dans la suite, on l'a vu que la femme a été séduite en premier. Et ensuite l'homme, et que la première transgression a passé par elle en premier. Mais la Bible ne déresponsabilise pas l'homme d'être 100% responsable, puisque Paul en parle aussi dans Romains chapitre 5. Alors attention, comment allons-nous voir l'argument, si ce n'est que Paul nous donne des faits et nous ramène sur les principes créationnels et les principes de la chute et dit, c'est à l'homme qui va partir ce rôle-là, pas à la femme, et pas à n'importe quel homme, c'est des hommes choisis avec des qualifications dans l'Église qu'on voit au chapitre suivant. Et donc, l'argument est créationnel. Et ce n'est pas selon les mœurs de l'époque, ce n'est pas selon les qualités de l'homme et la femme qui sont soulignées ici. Nulle part on parle des qualités de l'homme et la femme pour ce choix de la part de Dieu. C'est lié avec l'ordre créationnel dans lequel la femme est venue joindre l'homme. Il y avait un besoin là que Dieu a reconnu et l'homme n'était pas complet sans elle. Dieu le savait. Et c'est important ce terme utilisé, là. L'aide, le mot qui est là, c'est le mot secours. Il y a un besoin que l'homme a de la femme et c'est en équipe qu'ils ont leur place. Maintenant, on est dans Genèse chapitre 3. On parle de Genèse chapitre 2, où ce que là, ils sont en équipe. Au chapitre 3, ça se garde parce qu'il y a l'imperfection qui rentre, il y a la chute. Alors, qu'est-ce qui arrive après ça? Ben là, c'est dur de travailler en équipe. C'est compliqué. Parce qu'on est différent. On a la misère à apprécier la différence. On a la misère à le comprendre. On a la misère à négocier et le respecter et fonctionner en équipe. On a tous ce sentiment que ma perception est meilleure que l'autre. On est tous orgueilleux. Et c'est sûr que moi, je vois plus clair. Non, c'est moi qui vois plus clair. Et on a la misère à travailler en équipe parce qu'il y a à l'intérieur de nous cette lutte avec l'égoïsme, avec l'arrogance. Et l'homme, étant plus fort, profite de sa grosse voix, intimide ou domine, force à domination par sa force. Les femmes plus vulnérables avec les accouchements, avec la grossesse, dépendent plus de l'homme pour pourvoir, n'est-ce pas? Et là, tout à coup, il peut y avoir facilement dans l'homme imparfait la domination comme réaction. Et la femme, une réaction contre cette domination-là. Et ainsi de suite, les conflits de couple qui viennent ensemble de l'un et de l'autre, sans aucune distinction de qui a une plus grosse part que l'autre. On est deux pécheurs dans un couple. Et ça fait un couple imparfait qui doit dépendre de l'Évangile, qui doit dépendre de Jésus, qui doit dépendre de l'Esprit-Saint pour nous permettre de vivre en harmonie. Sinon, naturellement, nos couples se brisent. On n'a pas d'effort à faire. Et ça s'exprime donc aussi dans nos différends, dans nos responsabilités dans l'Église. Avant d'aller à ce point-là, j'aimerais juste lire ce petit paragraphe qui, je trouve, résume bien. C'est dans le commentaire du chercheur, par professeur Litvin, qui résume bien cette portion-là en disant « Parce qu'il manifeste la compréhension et une acceptation du dessein de Dieu pour la race humaine, en parlant de la femme, il demande cela à la femme. » Comme ailleurs, Paul fondant ici son point de vue concernant les relations hommes-femmes au sein de l'Église dans le récit de création dans Genèse chapitre 2. Toutefois, il ne fit aucune mention de la soi-disante malédiction au verset 16 du chapitre 3 de Genèse. Néanmoins, tentera ses désirs vers lui, mais il dominera. Il ne touche pas cette phrase-là. C'est pas lié ici à la chute, le rôle de l'homme et de la femme, du tout. Le rôle auquel Paul fait allusion ici sont plutôt le fruit du dessein fondamental de Dieu selon lequel l'homme, Adam, a été formé le premier et ensuite Ève. Et c'est vraiment ça ici. Ensuite, puis le mot d'abord. C'est juste ça qu'il y a un ordre créationnel. C'est tout. Cette vérité fait référence à bien plus qu'une simple ordre chronologique. Paul comprit par cette prescription temporelle, priorité temporelle, indiquant que l'autorité avait été donnée à l'homme auquel la femme est l'aide semblable à lui, devant se soumettre. Il faut se rappeler que la soumission ne signifie en rien l'infériorité et que l'autorité ne signifie en rien la supériorité. Deux êtres créés à l'image de Dieu, vis-à-vis égaux, mais avec un rôle différent, complémentaire, pour faire ensemble la volonté de Dieu. Et c'est là que je devrais entendre un « Amen ». Pour faire ensemble la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple de ce genre de conflit de couple-là. Et je vous rappelle l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont vécu il y a 4000 ans et que Dieu a dû séparer leur chicane. Combien aimerait ça que Dieu vienne séparer nos chicanes? Hein? Hein? Nous dire que j'ai raison. Hein? Quand je jugeais, là, c'est pour l'homme et la femme, parce que les deux vont avoir raison. Hein? Et c'est arrivé chez Abraham et son couple. Et je vous rappelle ici l'expérience où ce que les deux furent trompés par Satan. À une occasion, Abraham écoute sa femme pour prendre sa servante Agar. Puis là, tout à coup, il écoute sa femme pour prendre la servante parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et elle tombe à inclure une autre femme dans leur couple parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, puis elle ne fait pas confiance à Dieu, dit pourvoir. Et là, elle lui soumet une idée, et là, lui, il manque complètement de leadership. La proposition fait pas mal son affaire. Il est ouvert à l'idée. C'est un argument fort raisonnable de la part de sa femme. Et il embarque dans cette idée. Est-ce que c'était l'idée championne du siècle? Non. Et le résultat a amené des conflits de couple. Des conflits avec, écoutez, on chicane à deux. Imagine quand t'es trois dans le couple. Ça peut pas être simple, c'est sûr. Alors, on dit aux Québécois, hein, pourquoi faire simple quand on va faire compliqué? Hein? Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Puis ensuite, c'est elle maintenant qu'une fois que le bébé est arrivé, puis qu'elle voit des tensions, elle dit, ben là, il faut que tu le chasses. Ah là, il est pas content, il est pas d'accord avec sa femme. Et qu'est-ce que Dieu vient faire? Il dit, écoute, Abraham, écoute ta femme dans cette affaire-là, elle a raison. Il faut que tu les laisses aller, ils vont pas hériter ensemble. Fait que là, dans une chicane de couple, Dieu est allé dire que la femme avait raison. Vous savez, on est tous les deux pécheurs. On a de la misère à s'écouter l'un l'autre. On gagne à reconnaître ce que les Écritures nous disent, qu'on est complémentaires, que je gagne à l'écoute de ma femme, que ma femme gagne à l'écoute de son mari, et qu'on doit ensemble prier là-dessus, chercher ce que Dieu veut que je fasse, et voir si ce qu'on veut faire est pour ou contre ce que la Bible prescrit. Dans le premier cas, il a juste écouté sa femme, ça fait ça son affaire, qu'elle propose une idée, puis qu'elle a une initiative, d'inclure un troisième parti pour avoir un enfant. Il n'a pas consulté Dieu, ni les deux n'ont pas prié ensemble là-dessus du tout. Ils ont été avec leur chair. Et dans un autre chicane, ben là, Dieu s'en vient dire, ben écoute, ta femme a raison dans cette affaire-là. Et donc, l'idée d'être soumis, puis l'idée d'être leader ne veut pas dire que j'écoute tout ce que l'autre dit, puis je dois être d'accord avec tout ce que l'autre dit. C'est pas ça l'idée. On a un travail de couple ensemble. Et la majorité des décisions qu'on fait dans la vie, ma femme et moi, on les fait ensemble. Très rarement, j'ai besoin, je suis le mâle alpha ici, là, je suis le chef du foyer, je décide. Ah, je serais bien bête de faire ça, là. Parce que ma femme, elle m'aide tellement à prendre des bonnes décisions. Sans son éclairage féminin, son regard, les angles qu'elle considère, l'aspect relationnel qu'elle considère, sa sensibilité. Ah, oh, mais vieux que je serais dans le champ, mais pas à peu près. Et je l'ai été souvent. Je gagne. Et même comme équipe pastorale, j'irais plus loin. Même comme équipe pastorale, souvent on se pose la question, qu'est-ce que nos femmes pensent de tel sujet? De ne pas hésiter à parler de certains sujets avec nos épouses et d'avoir le pouls de l'Assemblée par nos femmes aussi, de comment les femmes voient ce sujet-là. Quelle sensibilité ils ont sur tel ministère ou telle chose dans l'Église. On a comme pasteur le mandat d'être à l'écoute de ce que les femmes ont à nous dire, leurs préoccupations, leur angle sur ces différents sujets pour éclairer nos décisions. Sinon, en quoi on est en train de servir le peuple de Dieu qui est composé d'hommes et de femmes, n'est-ce pas? Et d'avoir ce souci, cette écoute. Ce n'est pas sage de décider sans écouter son épouse, sans considérer le féminin dans nos décisions. Au contraire, les hommes sages sont marqués par du respect mutuel et de l'écoute pour être éclairés, pour bien servir comme leader dans mon foyer, pour bien servir comme leader dans l'assemblée, d'hommes et de femmes, de familles. Et c'est notre devoir. Et malheureusement, l'esprit macho, masculin, l'indépendance notre orgueil, notre égoïsme, nous fait manquer à ce devoir dans les différentes sphères. Et c'est une lutte pour hommes et pour les femmes, mais je parlerai ici comme homme en avant, pour nous premièrement. Vous savez, une partie du désordre actuel dans notre société et de confusion des genres vient directement de ce problème. On a rejeté le Créateur, et parce qu'on rejette le Créateur, on n'a plus de guide sur qu'est-ce que l'homme et la femme. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Pourquoi il y en a deux? Pourquoi ils sont différents? C'est quoi leur raison d'être? On a tout garoché ça. Et qu'est-ce qui arrive? On a une confusion. Et poser la question dans une entrevue aujourd'hui, c'est quoi une femme? Hey, il va commencer à suer, là. C'est pas une femme, là. Pourtant, il y a 50 ans, c'était pas compliqué à répondre. Aujourd'hui, si tu sais trop c'est quoi une femme, t'es sûrement conservateur. Si tu sais trop c'est quoi un homme, t'as une définition trop précise, t'es certainement quelqu'un qui est très religieux et réduit dans ta pensée du monde. Parce que c'est plutôt ouvert d'être confus, de laisser la place à l'ouverture, à du n'importe quoi, et finalement de ne pas savoir rien ou pas grand-chose. Et qu'est-ce que ça fait autour de nous? Est-ce qu'on a une plus grande force dans les couples et les familles? On a une plus grande satisfaction dans les relations hommes-femmes ou dans les relations? Peut-être une plus grande réussite dans la stabilité de nos couples en 2024? Non. Le rejet du principe créationnel apporte de l'échec et de l'insatisfaction relationnelle parce qu'on a rejeté celui qui nous a créés. Le rejet des principes créationnels fait qu'on ne peut pas être satisfait homme-femme. On est pécheur, on a besoin de lui, de ses éclairages. Et qu'est-ce que ça fait dans la société? Des gens qui sont pas plus heureux, qui prennent juste plus de pilules, et je suis pas contre les pilules, c'est pas ça que je dis, mais ils prennent plus de pilules pour essayer de trouver un peu de bonheur, un peu de paix, un peu d'engourdissement. Mais qui savent plus qui ils sont. Ils sont pas plus heureux de ne pas savoir qui ils sont. Et de chercher. Alors que ce livre nous donne tout l'éclairage de qui nous a créés, pourquoi, et pourquoi on est différent, et comment on travaille en équipe. C'est pas facile, mais avec l'Évangile, c'est possible. C'est ça. Avec l'Évangile, c'est possible. Et avec l'Évangile, la femme peut s'épanouir sans être du tout brimée. Et l'homme peut s'épanouir sans avoir besoin de brimer l'autre pour s'épanouir. Vous voyez? Maintenant, peut-être vous dites, ben, il s'en va vers la conclusion, ça va être plus facile. Ah non, ça va être encore plus difficile. On va être bien honnête. Peut-être le verset 15, et peut-être, pour plusieurs, le verset le plus difficile à interpréter de tout le Nouveau Testament, au complet. Le verset 15. Qu'est-ce qui veut dire exactement le verset 15, qui semble une sorte de conclusion, qui semble compléter l'argument? Il vient de dire ici que la femme est la première à tomber dans la transgression. Et là, il parle tout de suite après, elle sera sauvée. Fait qu'on comprend que dans l'argumentaire, il y a un lien ici, que malgré qu'elle a péché, il y a un salut pour elle. Elle n'est pas condamnée d'avoir été la première à avoir transgressé, même si l'homme a suivi tout de suite après, puis c'était son choix à 100%. Il ne peut pas se déculpabiliser sur la femme. Quelle est l'issue de la femme dans ce contexte-là et dans l'argumentaire de Paul? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est pas facile, et je peux pas dire que j'ai une réponse claire pour vous non plus, mais on va essayer de sortir quelques vérités importantes qui sont, elles, peut-être plus claires. Je vous le relis. Cependant, elle sera sauvée, elle au singulier. Fait qu'on a l'impression que le elle qu'on vient de parler, c'est qui? C'est Ève. Ou est-ce que c'est la femme? Mais le dernier antécédent, c'est Ève. Fait qu'on a l'impression que c'est Ève. Mais il y en a qui pensent que c'est peut-être la femme. Elle sera sauvée par, et là c'est le moyen, de la maternité ou de sa maternité. En fait, ici, c'est pas le mot ça, c'est la maternité. C'est un article défini. La maternité, au singulier. Fait que là, est-ce que c'est la maternité de Ève qui va nous sauver? Peut-être c'est ça, ou c'est la maternité de la femme, que toutes les femmes devraient être. Mais là, on parle au singulier, on a l'impression que l'article défini ramène à cette première femme, possiblement. Mais là, il y a des débats. À condition, OK, là, il y a des conditions de plus en plus, qu'elle persévère dans la foi, l'amour, la sainteté avec modestie. Donc, la sainteté est liée avec modestie. Mais là, ici, elle demeure, là, c'est pluriel. C'est-tu il ou elle au pluriel? Il y a des débats aussi. Qu'elle demeure. Là, on passe-tu de la femme Ève, la première, ou la femme générique? Et là, les femmes en général qui vont suivre après ça, qui, elles, vont être sauvées en ayant des enfants. Est-ce que le salut est lié à l'enfantement même? Ou ça veut juste dire qu'elle va être pas sauvée dans le sens d'être sauvée, le salut en Jésus-Christ. Mais le mot est utilisé aussi parfois pour parler de délivrance. Ah, j'ai été sauvé d'un accident d'auto, n'est-ce pas? On pouvait l'utiliser aussi, ce mot-là, dans le sens d'être sauvé d'un accident d'auto. Donc, on comprend que c'est pas mon salut éternel d'être pardonné de Dieu parce que j'étais pécheur, mais qu'ici, on parle d'être délivré d'une situation. Vous me suivez? Là, à ce moment-là, ça change un peu le sens. Fait que là, c'est pas que la maternité va la sauver pour la rendre sauvée des péchés, si elle persévère, mais que c'est plutôt, elle va être délivrée peut-être de vouloir prendre le rôle de l'homme. Ou que c'est quelque chose qui va l'aider d'être concentrée sur son rôle de mère, pour éviter cette tension-là, en quelque sorte. Ou de vouloir prendre le rôle de l'homme, prendre l'autorité. Et que ça va la protéger dans la mesure où ce qu'elle fait tout cela avec la vertu chrétienne. Foi, sainteté dans la modestie, n'est-ce pas? Et l'autre, amour. Là, vous me suivez ici, là, que quand tu prends un commentateur avec cette question-là, là, il te présente 56 options. Comment 50 différents auteurs ont différentes opinions là-dessus. Il y en a 6 qui pensent ça, il y en a 7 qui pensent ça. Et tu te rends compte que là, on se fend les cheveux en 4 sur des « il » au singulier ou « elle » au pluriel. Et là, sur « c'est qui l'antécédent ?» Et je vous avoue qu'après avoir lu tout cela, je suis encore plus mêlé. Fait que je peux même pas vous aider non plus là-dessus. Et je suis honnête avec vous. Le plus qu'on lit, on réalise que, ouais, OK, si je me positionne là, il y a tel argument qui est contre. L'autre, il soulève ça, c'est vrai. Ah, puis il y en a d'autres qui sont super intelligents, puis ils pensent ça. Puis là, c'est pas simple, pour être honnête. Puis j'ai des collègues qui sont bien clairs là-dessus. Puis je dois vous dire que le plus que j'ai lu, et je vais vous confesser même plus que ça, j'ai dû lire des centaines de pages dans un travail il y a 17 ans pour un docteur en théologie, Dr. Don Carson. J'avais un cours sur ce livre-là, dans un cours à la maîtrise, et j'ai écrit un papier sur ce sujet-là. Je me suis dit, on va me faire une tête, m'avoir la réponse. Et j'ai regardé mes notes il y a 17 ans, et c'était pas plus clair. Je me suis dit, c'est sûrement quelque chose d'intelligent que j'ai dit il y a 17 ans. Puis finalement, j'étais super confus. Parce qu'il y a 3-4 différentes positions intéressantes qui expriment des vérités qui sont justes, qui sont un peu embêtants, puis dire ça, c'est vraiment juste ça qu'il voulait dire. Une chose qui est claire, c'est que ce n'est pas lié au salut de la femme, c'est-à-dire qu'elle va être sauvée si elle a des enfants. Et c'est pas non plus qu'elle va être délivrée non plus, certains pensent qu'elle va être délivrée des douleurs de la grossesse ou de mourir dans l'enfantement si elle pratique les vertus chrétiennes. Ça non plus, ça marche pas, ça cadre pas avec le texte, ça cadre pas non plus avec l'historique et les faits, c'est de forcer des choses qui sont pas là. Mais il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose de lié à quelque part un peu avec Christ qui semble être là. Il y a quelque chose qui est lié avec le rôle de la femme qui semble être là. Et de faire ton rôle avec les vertus chrétiennes aussi qui se dégagent dedans. Et j'ai pris 2-3 positions qui me semblent les plus proches du texte et j'ai sorti 8 observations pratico-pratiques qui me semblent qu'on peut dire avec justesse qui sortent de ce texte sans avoir absolument à dire « ça veut dire ça, puis c'est sûr, puis aucune autre interprétation n'est bonne que celle-là. » Je ne saurais vous dire ça avec honnêteté intellectuelle, mais faire des observations pratiques qui semblent justes selon les Écritures et insinuées par ce texte, oui. Et je vous en propose 8 pour terminer. Vous êtes prêts à me suivre? Et on va terminer avec ces observations-là. Je pourrais vous lire plusieurs auteurs, des belles observations pratiques, et pourtant, c'est ça. Je vous lis ces 8 observations-là qui me semblent dégager du texte. Je vais juste dire ceci avant de terminer, puis faire les 8 observations. Jésus change la donne. Ça, c'est clair. Jésus change la donne par l'Évangile dans notre rôle l'un avec l'autre et la mise en pratique de ce texte. Et ce que j'en comprends est ceci, la femme vit l'Évangile en faisant fructifier ses dons, les dons que Dieu lui a accordés pour sa gloire, ce que Dieu lui a confié dans la maternité en particulier, un rôle unique que l'homme ne peut pas avoir, une influence unique que l'homme ne peut pas avoir par la proximité que la maman a avec son enfant, et d'instruire, de préparer une prochaine génération. Il y a quelque chose dans son rôle féminin qui est essentiel à mettre en pratique dans l'Église pour que l'Église avance. Chacun avec ce que Dieu lui a apporté comme homme et femme. Et donc, la femme vit l'Évangile en faisant fructifier clairement ses dons que Dieu lui a donnés pour sa gloire dans l'Église. Et voici les 8 observations qui me semblent claires dans le texte. Il y a un lien entre le rôle de la femme et la maternité. Wow, Joël, t'as fait assez fort, tu déduis fort ici. Je le sais, vous auriez jamais cru voir un lien là si je l'avais pas dit, mais je le dis quand même. Alors, il y a des choses comme ça très simples, et pourtant, c'est des choses simples qu'il faut rappeler. Parce qu'à notre époque, c'est plus clair. OK? C'est plus tout à fait clair. Et la Bible fait un lien ici clair entre le rôle de la femme et la maternité. Et que c'est un rôle important pour elle qui ne la diminue pas absolument en rien, bien au contraire, qui l'élève en respect auprès de son mari. Parce qu'elle porte la prochaine génération. Parce qu'elle va le faire avec sacrifice et qu'elle mérite respect pour le sacrifice qu'elle va vivre. L'homme va bûcher pour pourvoir à son foyer puis récolter. La femme, elle va souffrir en ayant les enfants. Ça fait partie de nos deux conséquences d'avoir été tous deux pécheurs dans Genèse chapitre 3. Et on a besoin d'avoir du respect l'un pour l'autre pour les conséquences qu'on vit au quotidien. Et d'aimer et de respecter la femme pour ce rôle de maternité qu'elle a unique et qui incombe, qui fait partie de qui elle est. Deuxièmement, nos rôles doivent être pratiqués à l'aide des vertus. Je ne peux pas remplir mon rôle d'homme et vous ne pouvez pas remplir votre rôle de mère sans l'aide de Dieu. Et c'est ce que les vertus chrétiennes disent là. Comment qu'elle va le faire? Bien, il faut qu'elle persévère dans la foi. Il faut qu'elle persévère dans l'amour. Il faut qu'elle persévère dans une sainteté qui l'amène à la modestie. Sinon, tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est juste Christ qui l'offre. C'est juste le pardon en Jésus, le message de l'Évangile qui peut apporter ça dans nos vies par l'Esprit qui vient vivre en nous. Je ne peux pas remplir mon rôle sans les vertus chrétiennes qui viennent de Christ et de son Esprit qui apporte ces changements dans mon cœur. Donc, comme femme, pour accepter, aimer, chérir ton rôle, tu as besoin des vertus chrétiennes. Sinon, tout autour de toi est là pour s'attaquer à ton rôle, pour le diminuer de toutes sortes de formes. Et vous savez, même dans la communauté chrétienne, une femme au foyer, il y a souvent toutes sortes de petits commentaires désagréables. « Oh, mais toi, tu ne travailles pas. » Attends un petit peu. Laisse-moi réfléchir à ça. Je travaille pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Et ça vient d'hommes et de femmes. Oui, mais tu travailles pas, tu es à la maison. Est-ce que je peux oser dire que c'est extrêmement maladroit et insensible de dire ça? Hommes et femmes? Vous savez, même la loi au Québec souligne que l'un ou l'autre des conjoints, je dis bien, peut s'acquitter de sa tâche, de son rôle, en restant à la maison. C'est écrit dans la loi quand je fais les mariages. Je suis obligé de lire ça. Et que la madame au travail, elle revient à la maison, elle peut changer d'air. La madame à la maison, elle reste à la maison. Puis elle ne change pas d'air à 5 heures. Puis il y a du overtime dans la nuit. Puis ça n'arrête jamais. Mais même dans notre culture évangélique, parfois, il y a des tensions là-dessus et des commentaires qui, mal intentionnés ou pas, sont insensibles envers le rôle féminin. On est à Trois-Rivières avec une pression financière un peu moins grande parce que le pouvoir d'achat et le coût de la vie est un peu moins grand que dans certaines villes. Fait qu'on a plus de femmes qui ont été au foyer que dans beaucoup d'autres églises où le coût de la vie est beaucoup plus élevé, que les deux ont beaucoup de pression à être les deux en dehors du foyer, même pendant la grossesse ou après la grossesse, et rapidement mettre l'enfant à la garderie, à bien à contre-cœur de bien des mamans. Pour qui c'est un grand sacrifice de faire ça, parce qu'il y a une pression financière. Et là, des fois, il y a des rivalités, des frustrations de tout ça, des commentaires. Et je nous invite à beaucoup de grâce, les uns envers les autres, hommes et femmes, de valoriser ce rôle-là, que chaque couple doit prendre comme choix et de le respecter. C'est vraiment important comme communauté chrétienne qu'on ait cette valeur. Nos rôles doivent être pratiqués avec l'aide de vertus et je pense avec aussi d'être épaulé dans la communauté chrétienne. Nos rôles, impossibles sans l'aide de Dieu. C'est complément à ce que je viens de dire. Mais on a besoin de l'aide de Dieu. Le rôle de maman peut être cruellement exigeant et sacrificiel. Derrière l'écran, souvent bien ingrat, avec peu de remerciements. Alors que la société aussi diminue ce rôle et fait sentir les mères au foyer comme moindres contributrices dans la société. Et l'Église, parfois, par ses commentaires, comme je viens de le dire, et la pression du deuxième revenu. Et même, je dirais, une autre petite affaire, j'ose le dire, je le sais publiquement, mais bon, je vais le dire. C'est mon salaire. Dites-moi pas ça devant la face, parce que moi, c'est sûr que je vais réagir plus que la madame. C'est mon salaire. Fait que là, la madame, il faut qu'elle demande permission au monsieur parce qu'elle est au foyer.
C'est son salaire à lui. Ah ben, tabarouette. Tu veux écœurer une femme? Dis une affaire de même. Elle va retourner sur le marché du travail vite, pas à cause de la conviction, parce qu'elle est écœurée. On en rit pour pas embrailler, pour pas être frustré, mais je sais pas combien de femmes j'ai entendu me dire ce commentaire-là. Et je dois me contrôler parce que ça me met en rogne. Parce que ça t'écœure une femme à maison, pas à peu près. C'est ton salaire? Ben oui, parce qu'elle, elle travaille à maison, que tu es libre de travailler. Puis, tu as étudié. Il y a des hommes qui ont étudié pendant des années. La femme, avant les enfants, l'a sacrifié pour qu'ils puissent étudier, puis elle travaillait, puis ils ont en équipe. C'est notre salaire, c'est notre argent. On est un couple, pour la grâce de Dieu. On est un couple. On a une réussite ensemble ou on échoue ensemble. Mais quand on embarque, c'est pour le meilleur et le pire. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais c'est tellement long de passer du « je » au « nous » dans un couple. Après des sondages, ils ont établi que ça prenait en moyenne 7 ans. En moyenne, pour les études de couple qu'ils ont fait, de passer du « je » au « nous ». Il y en a que ça prend 1 an, il y en a que ça prend une éternité. Ça fait que la moyenne tombe à 7 ans. Parce que c'est dur de se battre contre le « moi ». Si je veux réussir mon couple, tout passe au « nous ». Tout passe au « nous ». C'est notre salaire qu'on va décider ensemble comment l'utiliser pour honorer Dieu et prendre soin de notre foyer. Résistons à ce genre de commentaires pour avoir le contrôle des finances, pour avoir le contrôle des décisions, parce que j'ai plus de poids, j'apporte plus. On s'en fout que tu apportes plus. C'est ton couple, c'est ton foyer, c'est ton engagement pour la vie. Que l'autre apporte plus ou moins, ça n'a pas d'importance. On est ensemble pour gagner ensemble et ça va se faire avec l'aide de Dieu. Et seulement avec l'aide de Dieu, on va réussir et briser notre égoïsme et notre ambition et notre orgueil pour bâtir ensemble. Ça a été dit. Revêtir une attitude saine, c'est donc pas ce que je fais seulement qui compte pour Dieu, mais c'est l'attitude dans laquelle je le fais. Vous suivez ici? Il n'y a pas juste « faites ça les femmes » ou « faites ça ». Non, non. Les hommes au verset 8, les femmes au verset 9-10. Et là, ici, l'attitude à la fin du verset 15, on voit que Dieu veut pas juste que je fasse quelque chose pour l'obéir. Il veut que je le fasse avec une attitude des vertus chrétiennes. Dieu regarde au cœur, pas à la productivité nord-américaine. Et ce texte-là est en train de me pointer vers les valeurs de Dieu. Il regarde mon cœur. Il regarde pas. Ah, j'ai fait de la maternité, mais je chiolais tout le long, là, comme c'était pas possible. C'est là que j'ai appris à sacrer, parce que là, j'étais plus capable. Mais je l'ai fait, je l'ai enduré. Et vous savez, il y a des hommes aussi comme ça, pour qui la pression d'être pourvoyeur, ils voudraient tellement changer de place avec leur femme, parce que c'est dur pour eux. Et on peut convoiter la place de l'autre. Et Dieu veut simplement que je fasse par obéissance mes dépendances de lui, avec une attitude qui dépend de lui. Il regarde beaucoup plus à mon attitude que ma productivité de « OK, j'ai fait ça, j'ai été au foyer, ou j'ai produit, j'ai parlé au nous, j'ai fait des décisions au nous, mais tout le long là-dedans, je disais... » Non! Mon attitude. Je veux que je fasse les gestes parce que ça vient d'une attitude saine évangélique qui est liée à l'Évangile. Cinquième observation. La main qui berce l'enfant est la main qui domine le monde. C'est où tu vois ça dans le texte, Joël? Pas mal libéral comme interprétation. Prendre à cœur le rôle de la maternité lui confère à la femme une sorte de protection et une grande opportunité d'influence, nous disent les Écritures, dans la génération à venir, pour transmettre la foi. D'où cet adage anglophone et qu'on traduit en français. Reconnaissant le grand pouvoir d'influence des femmes auprès de leurs enfants, dans cette période de 0-5 ans, où un enfant est plus dépendant de leur mère, les premières années est allaité, plus collé, cette affection féminine rassurante d'un enfant collé à sa maman, ses premières tétées qui lui transmettent des choses importantes pour son code génétique, pour lui permettre de grandir fort en intelligence, physiquement. La femme a une influence incroyable. Et combien de mères ont changé la vie de leur enfant par l'apport qu'elles ont eu dans leur petite enfance? Parce que c'est de 0 à 5 ans que se fait la formation du caractère principal d'un enfant. Et où est-ce qu'il est? Beaucoup dans les bras de maman, majoritairement, par papa qui est à l'extérieur en train de travailler et que maman continue à le nourrir parce qu'on nourrit moins longtemps maintenant, mais auparavant, on nourrissait beaucoup plus longtemps. Dans cette période où ce qu'un enfant a besoin de sécurité, d'affection, de se sentir aimé et le développement de son caractère sain, l'influence d'une mère ne devrait jamais être négligée. Mesdames, vous avez une influence puissante sur les enfants, sur les hommes à venir. On dit souvent aussi, derrière chaque grand homme, une grande femme. Ah, elle est plus discrète, c'est l'homme qui part en avant, mais et cabuche en arrière pour couvrir ses erreurs ou pour l'aider, pour lui faire voir des choses ou l'avoir influencé dès son enfance. La piété des femmes est une clé pour nourrir l'Évangile à leurs enfants. Évidemment, avec la complicité de leur mari, les femmes ont un rôle clé dans cette transmission de la foi, à nourrir les enfants, pas juste physiquement, mais spirituellement, et on va en parler plus tard dans cette série. Sixièmement, si on en enlève un, on enlève tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on enlève un, on enlève tout. Certains iront jusqu'à dire que l'homme est peut-être une grande gueule, bibliquement parlant, c'est lui qui doit parler en avant. Hein? Mais il y a le jugement qui vient avec aussi, de parler en avant. Mais si personne ne prenait autant soin des enfants, qu'arriverait-il? La femme le fait plus que l'homme et argumentablement, l'enseignement lui est donc une plus grande part dans la jeune vie des enfants. Ce sont les femmes qui passent une majorité de temps, et ça je l'ai mentionné juste auparavant. Et vous savez, si on enlève un, on enlève l'autre. On est intrinsèquement liés ensemble. Sixièmement, l'enfantement a sauvé la femme et l'homme. Cette première femme, on nous dit que sa descendance écraserait la tête du serpent. Elle serait blessée au talon, mais elle parle de la venue du Messie qui va venir délivrer du péché. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici de clair, lié avec Ève, et que la délivrance d'Ève va passer par l'enfantement, parce qu'elle aura éventuellement la femme, la naissance de Jésus. Et Paul prend le temps de souligner que c'est par une femme que Jésus est né. C'est pas par un homme, c'est par une femme. Et Jésus est né d'une femme. Et notre salut passe par Jésus. Homme et femme. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Dieu choisit peut-être que l'homme était le leader du foyer, mais Dieu choisit qu'il serait une femme qui porterait le unique Messie. Une petite femme vierge qui s'appelle Marie. Et notre salut a passé par ce moyen unique que Dieu a conçu. Il faut se le rappeler et l'apprécier. Et finalement, croire en Jésus, bien, c'est aussi de marcher à contre-courant. Notre société nous dit tout le contraire parce qu'elle a rejeté le Créateur. Si vous ne rejetez pas le Créateur, que vous suivez le Créateur, c'est normal d'être à contre-courant et que notre perception sur l'homme et la femme, sur notre vision de la vie, soit différente parce que Jésus a fait une place en nous. Nos valeurs ont changé. Soyons pas intimidés d'être à contre-courant. Les croyants étaient à contre-courant il y a 2000 ans. Ils sont encore aujourd'hui. C'est normal qu'on ne voit pas œil à œil sur ça. Et on n'a pas à plier, à changer nos interprétations bibliques, à accommoder pour les pressions sociales actuelles dans l'Église. Être à contre-courant fait partie de ce que Jésus, et Jésus le dit dans l'Évangile. Le Seigneur Jésus était clair à ses disciples, celui qui veut me suivre, ça ne sera pas facile. Il va laisser des choses, mais je lui promets au centuple, beaucoup plus. Mais c'est normal que dans notre position, il y ait une notion d'être à contre-courant. C'est là depuis l'Évangile de Jésus avec ses disciples. Je vais inviter les musiciens à s'approcher, on va prier et terminer. Merci de votre patience, je sais que ça prend un peu plus de temps, mais c'est un sujet aussi plus complexe qui nous demande de bien le présenter. J'espère que ça aide, mes notes seront disponibles. Et si vous avez des questions, allez voir des anciens, ça nous fera plaisir de répondre. On va prier ensemble. Père Céleste, on a besoin de ton aide pour, Seigneur, respecter les Saintes Écritures, respecter l'ordre créationnel de notre Créateur. Seigneur, notre société a fait un choix différent et elle le rejette. Et Seigneur, lorsque je regarde autour de moi, je n'envie pas ce que notre société prône et ce qu'elle nous offre. Parce que le fruit est amer. Le résultat décevant. Et l'appât insatisfaisant. Et on voit autour de nous, Seigneur, une société déçue. Une société qui n'est pas heureuse, pourtant avec plus de richesse que jamais. Confuse. Parce qu'elle ne croit pas dans son Créateur. malheureuses parce qu'elles ne croient pas dans celui qui peut enlever notre malheur, Jésus-Christ. Et Seigneur, si nous comprenons ces choses, si nous le croyons, c'est une pure grâce, Seigneur, que tu nous as éclairé, que tu nous as permis de connaître Jésus. Combien de gens ont vu Jésus, ont été guéris par Jésus et pourtant n'ont pas cru en lui, malgré le miracle. Et nous avons cru. Quel privilège, Seigneur. Sans Jésus, je serais confus. Sans Jésus, je ne serais pas ma valeur. Et en Jésus, par l'évangile de Jésus, tout est là pour moi pour réussir dans cette vie. Réussir selon les valeurs de l'évangile. Merci, Seigneur, pour Paul qui a parlé, lui aussi à contre-courant, qui a été jugé depuis 2000 ans pour ses paroles comme étant macho, comme toutes sortes de choses, et qui a pourtant juste dit ta parole selon ce que l'Ancien Testament enseignait, qui a exhorté l'Église à suivre le Créateur et ses principes créationnels, et qui a affronté cela jusqu'à la mort. Accorde-nous, Seigneur, de suivre l'exemple de Paul, homme et femme, d'être fier de l'Évangile, de ne pas avoir honte, comme il dit à Timothée, et de se tenir sur ce rocher ferme qu'est l'Évangile, qu'est le rocher en Jésus-Christ. Seigneur, que les blessures qui hantent nos pensées lorsqu'on adresse un sujet comme ça, les blessures envers les hommes et les femmes, d'un père, d'une mère qui m'ont déçu, d'un conjoint, une conjointe qui m'a blessé, de la hiérarchie au travail ou ailleurs qui m'a rendu suspect et incapable de faire confiance à personne, surtout du sexe opposé, guéris nos plaies, Seigneur. En Jésus-Christ, qu'on puisse trouver, Seigneur, du réconfort et de la guérison de nos réactions vis-à-vis l'autre, qui sont réactionnelles et qu'on veut être délivré. Accorde-nous du pardon envers nous-mêmes, du pardon envers l'autre. Et c'est seulement toi, Seigneur, ô Père Céleste, par ton Fils Jésus, qui nous permet de faire cela. Nous avons besoin de guérison, Seigneur, pour avoir des yeux lucides et exercer notre foi en toi, aveuglément, parce que tu mérites notre confiance. Nous te prions pour ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.